mesdames, messieurs, vous m'entendez bien, c'est bon? Voilà. Bien, ravi de pouvoir répondre à l'invitation que l'UTB et son président m'ont adressée il y a à peu près un an maintenant pour approcher un aspect de notre histoire locale qui n'est pas mince, puisqu'il conditionne. Ce qui serait super, c'est si on pouvait enlever le plateau, que je vois bien tout le monde. Ça, pour moi, c'est important de voir le public. Voilà, je ne veux pas jouer les cabots, mais voilà, ça sera mieux comme ça. Comme il n'y a pas de projection, ça sera plus simple. Pour répondre à cette invitation et aborder un aspect de notre histoire locale qui est sans doute déterminant. Parce qu'au travers de cette heure de conférence, c'est à peu près le temps qui m'est alloué, président, c'est ça? Et puis une séance de questions, parce qu'il faut aussi que le public puisse s'exprimer, j'y tiens. Il est question, évidemment, d'aborder un des traits fondamentaux de l'histoire de Chalon-sur-Saône, même si on va parler de Givry. J'allais dire dans peut-être la motivation économique première de l'établissement de cette ville et de son développement dans les premiers siècles de notre ère, et même avant, puisque c'est au vin et aux exportations, aux importations de vin, avant même qu'on en produise ici, que l'on doit une grande partie de l'explication de la fondation de notre ville et de son développement dans ses premiers siècles. Donc il me semblait important de redire ceci au début, pour bien témoigner de ce que l'histoire du vignoble de Givry, c'est quelque part l'histoire de Chalon-sur-Saône également. C'est en tout cas un élément incontournable qu'on revisite aujourd'hui, puisque l'histoire vitivinicole a eu des hauts et des bas. On a eu de grandes périodes où on s'y est intéressé. Je citerai évidemment dans les années 50 la grande thèse de Roger Dion sur l'histoire de la vigne et du vin en France, des origines au XIXe siècle, qui aborde d'ailleurs allusivement, mais qui aborde tout de même le vignoble chalonnais au sein du vignoble bourguignon. Et puis des thèses plus récentes, je pense notamment aux travaux de Marcel Lachivet, qui a renouvelé un petit peu le genre. Mais aujourd'hui, on s'en rend compte, on a besoin d'avoir le secours et le recours aux études locales pour mieux appréhender quelles ont été et les conditions de la naissance et celles du développement du vignoble français. Alors, Givry, vous connaissez de nom, vous connaissez sans doute, je vous le souhaite aussi, par le goût. C'est toujours un peu embêtant de faire une conférence sur le vin qui ne se finisse pas par une dégustation. C'est une frustration énorme. D'abord pour le conférencier, mais également pour le public. Je pense qu'il serait intéressant d'avoir un prolongement amical autour avec un viticulteur qui viendrait vous présenter son produit. Et j'ai fait 2 années de suite à Givry une soirée qui s'appelait « Trois voix pour un vin ». C'était un géologue, un œnologue et un historien. Et je dois dire que ça fait un ensemble qui généralement est assez plaisant parce que l'histoire est liée au produit, le produit à l'histoire et le sol, évidemment, est le substrat de tout ce développement. Donc ça me paraît essentiel qu'un jour on y goûte, monsieur le président, n'est-ce pas? Bien. Bon, très bien. Ça ne vous empêche pas d'en boire avant, évidemment. Donc, quelques mots sur le vin de Givry, avant qu'il y ait du vin à Givry. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Eh bien, si, pourtant, parce qu'on a retrouvé dans le sol de Givry, et notamment celui des coteaux, d'ailleurs, des amphores, des restes d'amphores, des pointes d'amphores. Si vous allez, par exemple, parce que c'est une des plus célèbres, au musée du vin de Beaune, vous verrez dans la première salle une pointe d'amphore qui avait été retrouvée par Louis Armand Calia, qui fut, comme vous le savez, je pense pour certains conservateurs, du musée de Nom de Chalon-sur-Saône, et qui habitait Givry, et qui a enrichi les collections du musée du vin de Beaune de cette pointe-là. En fait, on sait qu'on consommait dans le Chalonnais du vin avant même qu'on en produise, et que l'une des motivations du développement du port gaulois de Chalon-sur-Saône, ça a été l'importation de vin d'Italie. Avant même, évidemment, qu'on acclimate cette culture dans ce qui est sans doute la fin du premier siècle de notre ère. Plus les études avancent, et notamment l'archéologie, plus on a tendance à avancer ou reculer, plus exactement, puisqu'il faut regarder de l'autre côté, la date de l'implantation du vignoble dans notre région. Et je pense qu'on n'est pas d'ailleurs au bout de nos surprises avec le temps pour considérer un jour que cette culture de la vigne s'est implantée ici d'une manière très très précoce. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour notre secteur, le goût du vin déchargé à Chalon-sur-Saône pourrait être notamment conduit jusqu'à Augustodunum. C'était le port de déchargement, l'un des grands ports de déchargement que celui de Cabillonum, a naturellement, j'imagine en tout cas, et c'est tout à fait probable, donné l'envie d'une culture locale. Ça ne suffisait pas, évidemment. Il fallait, pour que la connaissance arrive, que les réseaux vières fussent constitués. Nous avons la chance, dans le secteur du Chardonnay, d'être dans une zone largement traversée par des voies de communication depuis l'Antiquité et sans doute même dans des périodes plus anciennes. Et par conséquent, ça a incontestablement favorisé l'avancée de la culture de la vigne, en tout cas son acclimatation ici. Et enfin, il manquait quelque chose, et ce quelque chose, évidemment, il est très présent sur le territoire de la côte chalonnaise, c'est la qualité du sol et du terrain. La vigne n'est pas une plante très rebelle. Elle s'acclimate finalement d'un grand nombre de terrains. Quant à la qualité du vin, c'est autre chose. Mais il est bien certain que dans les terrains de l'Oxfordien qu'on trouve notamment sur le secteur de Givry, elle a trouvé un territoire propice qui a naturellement favorisé son acclimatation locale. Je passe quelques siècles parce que mon propos est évidemment de vous emmener jusqu'à nos jours. Alors évidemment, en une heure, ça sera un peu frustrant, mais je pense qu'il est important de replacer les grandes étapes de cette aventure du vin à Givry. La culture de la vigne est liée, et je parle sous le contrôle d'autorités ecclésiastiques ici présentes que je salue, est liée évidemment au christianisme, puisqu'il ne peut pas y avoir d'Eucharistie sans vin, et par conséquent, l'implantation et l'avancée du christianisme n'a pu se faire qu'avec la plantation de vignes. Il est tout à fait probable que le vignoble givrotin existait avant que l'Église fasse sur ses terres chalonnaises ses premiers pas. En tout cas, le mariage des deux a véritablement conforté l'implantation et le développement du vignoble de Givry et dans l'ensemble de la côte chalonnaise. Je tiendrai d'ailleurs un exemple de cette implantation relativement précoce du vignoble en relevant sur le sol de Givry la découverte qu'on fit il y a 150 ans, en 1854 précisément, d'un superbe poisson bleuté en vert que vous pouvez d'ailleurs voir au musée Rollin d'Autun. C'est une œuvre d'art admirable, un travail fabuleux qui date du 3e au 4e siècle. Vous savez que le poisson est un des symboles premiers du christianisme, parce qu'on avait notamment fait un rapprochement avec son nom grec, Ictus, qui, lorsqu'on reprend les initiales, signifie Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur. Donc cette assimilation et ce symbole que les premiers chrétiens utilisaient de préférence à la croix, parce qu'elle les marquait moins, notamment au temps où la répression s'abattait sur eux, eh bien il est présent sur la colline de Varanges, à Givry, là aussi dans un lieu où l'établissement de la vigne est précoce, et en tout état de cause, l'existence d'une communauté chrétienne à Givry est établie, sans doute d'ailleurs peu de temps, en tout cas quelques dizaines d'années ou un siècle maximum, après l'établissement du vignoble. J'allais dire que c'est sans doute d'ailleurs aux religieux que l'on doit, et notamment les religieux chalonnais évidemment, que l'on doit à une grande partie du développement de la vigne à Givry. Il va sans dire que au Moyen-Âge, les financeurs qui peuvent détenir un capital suffisant pour planter un vignoble, construire un pressoir, parce que évidemment, il faut pouvoir presser le raisin, eh bien, ne sont pas nombreux et que nécessairement il s'agit de communautés qui ont une assise financière et capitalistique suffisante. Et il est évident que dans ce contexte, les ordres religieux sont au premier chef. On trouve d'ailleurs dans les archives et notamment les cartulaires chalonnais un certain nombre de mentions précoces de la possession de vignes par des autorités ecclésiastiques. Je pense en premier lieu d'ailleurs au prieuré de Saint-Marcel, qui, comme vous le savez peut-être, fut fondé, en tout cas, c'est sa fondation théorique, par le roi Gontran au VIe siècle, et qui, dès la fin du IXe siècle, possède, en tout cas nous a livré encore, quelques chartes où sont mentionnées des possessions viticoles sur Givry, notamment sur le secteur de Russie, hein, qui, comme vous le savez peut-être, est situé sur les hauteurs de Givry. Donc, c'est la première mention écrite, c'est sans doute pas la plus ancienne en réalité, mais en tout cas, c'est celle qui nous reste aujourd'hui, et il faut bien que nous travaillions sur des sources, donc ça limite nécessairement notre connaissance, mais ça la permet aussi de considérer donc que Saint-Marcel fut un des premiers établissements religieux à s'intéresser de près au vignoble de Givry, en tout cas, d'y acquérir des terres qu'il a bonifiées en les plantant, notamment en vignes. On a d'autres possesseurs ecclésiastiques qu'on trouve de manière précoce, notamment aux alentours de l'an 1000, je pense à l'évêque de Chalon-sur-Saône, je pense au chapitre cathédral de Saint-Vincent de Chalon aussi, puisque d'ailleurs le chapitre restera un des grands propriétaires fonciers de Givry jusqu'à une époque avancée. Je pense un petit peu plus tard à l'abbaye de la Ferté, l'abbaye de la Ferté qui d'ailleurs a laissé encore, première fille de Citeaux, qui a laissé son nom à une propriété célèbre de Givry, celle liée aux moines. Hein, celle liée aux moines aussi superbement exposée, qui est une propriété absolument admirable et qui a été fondée par les moines de l'abbaye de la Ferté. Je citerai encore, pour être complet, l'abbaye de Mézières, qui fut elle-même une fille de la Ferté et qui acquit également des vignes à Givry. Je citerai les hospitaliers de Saint-Antoine, qui étaient présents à Chalon-sur-Saône. Et puis d'autres encore, qu'on trouve un peu plus tardivement dans les sources, au XVIe siècle, le prieuré de Sainte-Croix, la collégiale Saint-Georges de Chalon-sur-Saône, l'abbaye Saint-Pierre, les jésuites également de Chalon, qui posséderont des vignobles à Givry, les Carmes et les Cordeliers au XVIIe et XVIIIe siècle. Et puis, voilà, c'est, j'allais dire, l'ensemble de ces communautés. Il y en a d'autres encore, mais je ne les détaille pas, parce qu'elles sont plus anecdotiques par la superficie qui les concerne, qui marquent bien que ce vignoble a été un enjeu économique très, très précoce et qu'il a intéressé naturellement ses premiers investisseurs qui étaient les fondations et les établissements religieux. D'autres investisseurs laïcs se sont établis, évidemment, sur Givry, ne serait-ce d'ailleurs que les ducs de Bourgogne, mais j'y reviendrai dans un moment, qui, mais d'une manière complètement anecdotique par rapport à l'importance de la propriété religieuse, ont pu également à l'occasion posséder des vignes sur le secteur de Givry et globalement sur l'ensemble de la côte chalonnaise. Donc, ce développement, il est porté par le capital des communautés religieuses, et il va d'ailleurs très rapidement déborder le Chalonnais pour acquérir une aura qui dépassera de loin même la seule Bourgogne. Le vin de Givry est le vin qui monte, si vous me passez l'expression, au Moyen-Âge. Il monte sous son nom ou sans son nom. Sans son nom, parce que comme bien souvent au Moyen-Âge, on appelle Beaune le vin d'une qualité supérieure qui est vendue à l'extérieur de la Bourgogne, sans souci d'ailleurs de savoir s'il est produit ou non dans le Beaunois. Ça, il faudra attendre, et vous allez voir que dans les années 20 encore, on n'était pas complètement fixé, il faudra attendre la naissance des appellations d'origine pour vraiment avoir une codification, une clarification de ce régime-là. Il est d'une pratique courante, qu'on donne un autre nom à un vin dès qu'il a une qualité qui dépasse la moyenne. Je suis en train de travailler, je fais une parenthèse, mais c'est pour souligner le parallèle de manière beaucoup plus contemporaine. Je suis en train de travailler sur les vins mousseux de Bourgogne. Là aussi, c'est une grande aventure qui a commencé dans les années 1820. Et dans les années 1820, jusqu'à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, les bons mousseux de Bourgogne sont vendus en Champagne, sous le nom de Champagne, sans que personne ne trouve à redire, parce que c'est une logique économique à l'époque, en tout cas, évidemment, avant vraiment les revendications et les délimitations territoriales, qui est tout à fait commune. Donc on a là aussi le même phénomène au Moyen-Âge sur Givry. Néanmoins, et c'est peut-être là que ce vin perce dans le marché national, le vin de Givry arrive à être commercialisé sous son nom. Et on le doit notamment à une politique active que vont mener les ducs valois de Bourgogne, au XIVe essentiellement et XVe siècle, qui va permettre que ce vin se diffuse, et se diffuse largement. Les ducs de Bourgogne, et je pense essentiellement au duc des grands vins, qui est Philippe le Hardi, qui a combattu les cépages non nobles, parlait du déloyal Gamay, qu'il essayait de faire reculer sur les vignes du duché, au profit du plan roi en matière de vin rouge, c'est évidemment le Pinot. Et cette politique œnologique de Philippe de Valois a porté ses fruits également en Chalonnais, puisqu'on sait que le duc était propriétaire du château de Germolles, et que le clos du château de Germolles était, alors c'était surtout le duc, enfin c'était moins le duc que son épouse Marguerite de Flandre, hein, qui avait la charge de cette maison et de son embellissement et de son développement et de son exploitation, sous la roseraie, la bergerie et le vignoble et le clos qui allait avec. Donc on a eu très très tôt aussi ici dans cette région cette volonté sélective en termes de cépage qui a permis que le Pinot se développe ici. Et non seulement on a favorisé et cultivé dans les domaines ducaux le Pinot Noir comme excellent cépage pour le Chalonnais, du reste ici est parfaitement acclimaté puisque le sol lui convient très très bien, mais de surcroît, le duc a voulu, par une politique de promotion commerciale, faire valoir dans son ensemble le vin de Bourgogne et plus particulièrement le vin de Givry. C'est ainsi qu'on voit Philippe le Hardi faire des dons. Il est d'usage à l'époque pour entretenir de bonnes relations avec les cours d'Europe de leur envoyer des cadeaux, hein, avec les grands de ce monde. Eh bien, Philippe le Hardi envoie du vin, et notamment du vin de Givry, qui peut être aussi d'ailleurs, pour la même raison que celle que j'expliquais tout à l'heure, du vin de Mercuré, mais vendu sous l'étiquette Givry. Bon. Et il envoie en tout cas du vin de Givry en Flandre et dans d'autres États européens pour marquer cette puissance économique qu'il assoit notamment sur la richesse et la spécificité du vignoble bourguignon. Et donc Givry est en pointe dans ce domaine-là, à un tel point d'ailleurs que cela va favoriser les exportations du vin de Givry et que l'on verra au XIVe siècle et XVe siècle, XIVe essentiellement, les papes d'Avignon envoyer des courtiers dans la région et mener une politique d'acquisition de vin de Givry assez développée. On les retrouve notamment dans la belle étude que M. Dubois a consacrée aux foires de Chalon-sur-Saône. Je vous y renvoie, parce que c'est un texte absolument admirable, une thèse extraordinaire, où on voit bien comment les courtiers pontificaux achetaient volontiers dans la région du vin, et notamment, avec des quantités d'ailleurs assez appréciables, du vin dit de Givry. Et puis, consécration littéraire, au XIVe siècle également, un poète, Eustache Deschamps, cite le vin de Givry dans... Alors c'était un bon vivant, il ne cite pas que le vin de Givry, visiblement il en goûtait beaucoup. Il disait d'ailleurs que ça le consolait du malheur de son mariage. Écoutez, ça je ne porterai pas une appréciation personnelle sur la question. Et en tout cas, on retrouve un certain nombre de crus réputés français à cette époque-là, notamment dans ce texte qui s'appelle « Le miroir de mariage ». Or, lui refaut de plusieurs vins, vin de Saint-Jean et vin d'Espagne, vin de Rhin et vin d'Allemagne, vin d'Auxerre et vin de Bourgogne, vin de Beaune et vin de Gascogne, vin de Chablois, vin de Givry, vin de Vertu, vin d'Irancy, vin d'Orléans, vin de Saint-Pourçain, avoir telle femme n'est pas saint, vin d'Aix, vin de La Rochelle, Garnache, Faux et Ganachelle, vin grec et du vin muscadet, Marvoisie, elle a demandé, Verju veut avoir vin gouet, et s'il veut de divers brouets, etc. Bon, vieux français dans le texte, pardonnez-moi, c'est pas toujours très compréhensible, mais en tout cas, ça montre une chose, c'est que ce vignoble de Givry est suffisamment étendu et renommé pour que sa réputation arrive jusque à la cave et à l'oreille du poète qui le reprend à plusieurs reprises d'ailleurs dans ses textes. Donc, voilà, le décollement économique, il est là. Il est au XIVe siècle. C'est au XIVe siècle que les vins de Givry commencent véritablement à se développer et à sortir de leurs frontières. Ce n'est pas une mince affaire, parce que entre nous, la France est peuplée de vignes. Elle le sera de plus en plus jusqu'au phylloxéra, sur lequel je vais évidemment revenir dans un instant. La grande crise du vignoble de la fin du XIXe siècle. Mais le vin de Givry s'est distingué. On voit bien qu'on le doit à une politique d'investissement religieux, à une politique de promotion commerciale politique, au sens premier du terme, due au duc de Bourgogne, et puis, incontestablement, parce que ça ne pourrait pas être autrement, à la valeur, là aussi, et à la qualité propre de ce vin. J'ajouterai quand même un élément, c'est que la situation du vignoble de Givry, à quelques kilomètres, à 10 kilomètres à peine du port de Chalon-sur-Saône, est évidemment un facteur qui favorise la diffusion de ce vin sur ce grand couloir Saône-Rhône, qui est incontestablement une source, en tout cas une condition sine qua non, de la richesse régionale. Et ça joue bien incontestablement au Moyen-Âge. Un point tel d'ailleurs que les édiles chalonnais, lorsque un personnage important passe à Chalon-sur-Saône, lui offre généralement du vin de Givry. On en a une illustration parmi beaucoup d'autres en 1501, lorsque Louis XII passe à Chalon, lors d'une tournée en Bourgogne qui est destinée à s'assurer de ses frontières, alors que l'Allemagne se montre à cette époque-là menaçante, et que les magistrats de Chalon décident de recevoir le roi et la reine en leur offrant des bagues en or, des pierres précieuses et 42 tonneaux de vin de Givry. 42 tonneaux de vin de Givry qui valent bien tous les diamants du monde entre nous. En tout cas, c'est pour vous montrer l'importance qu'on accorde à ce vin que ce présent royal constitué sur décision, et d'ailleurs les archives sont encore conservées, aux archives municipales, sur décision des édiles de Chalon-sur-Saône. Le vin, d'ailleurs, a dû plaire au roi, puisqu'il a confirmé à cette occasion les privilèges de la ville de Chalon-sur-Saône et concédé le pont sur la Saône, ainsi surtout, ce qui est plus important pour notre sujet encore, qu'il a exempté de tout impôt les vins de Bourgogne vendus au port de la Seine et de l'Yonne. Alors ça, évidemment, pour le commerce, c'était encore plus important que de savoir que les privilèges de la ville avaient été confirmés. Donc cette volonté de promotion commerciale, elle porte pleinement ses fruits donc sur la dernière partie du Moyen-Âge, jusqu'encore, vous le voyez, au début du XVIe siècle, et je crois que c'est quelque chose là aussi qui doit être notable. Alors je dirais un mot du cèpe déplaire à certains, comme ça a déjà été fait à Givry, de la légende du roi Henri IV. C'est très embêtant quand on a le cœur qui bat à Givry et la main qui cherche, et les yeux du regard qui cherchent dans les archives, parce que il est clair que je dois tordre le cou à cette légende du vin préféré du roi Henri IV. Non pas qu'il ne l'aurait pas mérité, messieurs, mais à la vérité, la légende du vin préféré du roi Henri IV, qui va d'ailleurs, c'est intéressant pour notre sujet aussi, servir de support commercial, essentiellement d'ailleurs à partir du XVIIIe et XIXe et encore plus XXe siècle, cette légende ne repose sur aucune source d'archives valable. Que Henri IV ait bu du vin de Givry, c'est tout à fait probable. Qu'il ait fait de ce vin son préféré, c'est déjà beaucoup plus discutable. Et vous savez qu'il y a tellement de légendes qui courent au sujet du verre galant. On le voyait retrouver Gabriel d'Estrées au château de Germolles. Ça paraît complètement improbable parce qu'on n'a pas de trace véritable du passage du Gabriel d'Estrées ici. En tout cas, ce qui est très intéressant de noter, c'est quoi? C'est que la légende du vin préféré du roi Henri IV naît au XVIIIe siècle, au début du règne de Louis XVI. Et c'est le XVIIIe redécouvre Henri IV. On le voit partout. Après le règne un peu laborieux de Louis XV, on met beaucoup d'espoir dans l'avènement de ce nouveau roi, Louis XVI, qui semble paré de toutes les vertus. En tout cas, on voudrait le voir paré des vertus du grand roi Henri, qui restera sans doute comme le plus populaire des rois de France, incontestablement. Et c'est toute une historiographie un peu rétrospective va se développer autour d'Henri IV. et on va le voir partout. Et celui qui crée cette légende, en tout cas qui la reprend et qui lui donne une extension extraordinaire, c'est un historien dont vous connaissez sans doute le nom, c'est Courtépée. Courtépée, grand historien de la Bourgogne, qui, avec beaucoup de correspondants et en allant lui-même sur le terrain, va, dans les premières années du règne de Louis XVI, recueillir une multitude de traditions historiques sur tout le territoire. Et il arrive à Givry, il y repasse d'ailleurs deux fois, il goûte le vin de Givry, il en parle, j'y reviendrai dans un instant, et il recueille cette légende du vin préféré, qui ne repose que sur une réputation locale, en tout cas qui n'a aucun fondement, ça je puis vous l'assurer pour avoir cherché, parce que j'ai cherché, qui n'a pas de fondement archivistique en tant que tel, mais c'est très intéressant de voir ce contexte. On voit d'ailleurs, on a eu un colloque il y a quelques années à Dijon, je crois, sur Henri IV et la Bourgogne, cette Henri Mania des années 1770, eh bien on en a une traduction à Givry, parce que c'est précisément l'époque où Givry connaît sans doute un des paroxysmes de sa gloire ces dernières années de l'Ancien Régime. Je vais y revenir dans un instant. Et donc, il est pratiquement logique que ce devienne le vin préféré du roi Henri IV à ce moment-là, c'est-à-dire 160 ans après la mort du dit roi. En tout cas, bon, voilà, donc ça m'a valu des ennemis irréductibles à Givry que d'avoir dit ça, mais voilà, ça n'enlève rien, encore une fois, aux qualités du Givry, et sans doute, d'ailleurs, sans éteindre la certitude qu'Henri IV en a très vraisemblablement goûté, en tout cas de son vivant, à défaut d'en avoir tellement bu après sa mort, puisque on en a fait sa spécialité. Alors, 18e siècle. 18e siècle, c'est une période très très intéressante. On le voit dans les archives privées, j'ai eu l'occasion de pouvoir y travailler, on voit l'inflation des prix des terrains. Il y a une demande accrue d'achat de vignes sur Givry au 18e, et notamment par une partie de la bourgeoisie chalonnaise qui cherche à acheter parce que c'est un produit très rémunérateur. C'est l'époque où de grandes fortunes viticoles se constituent, alors certes dans la côte de Beaune, mais également dans la côte chalonnaise, où l'on voit se développer des caves absolument extraordinaires. Je pense aux caves du sieur Millard qui fait bâtir à Givry avec une méthode scientifique. On les voit d'ailleurs toujours, ces caves route de Beaune aujourd'hui. Et c'est la grande période d'expansion. Et Givry est fier de cette expansion et cette richesse qui arrive à ce moment-là. C'est l'époque où l'on va refaire une nouvelle église pour Givry. Et on ne va pas la faire faire à n'importe qui, puisqu'on l'a fait faire à l'architecte qui monte à ce moment-là, qui est Émile Angotet. C'est l'époque où l'on fait la nouvelle porte de Givry, que vous pouvez encore admirer en arrivant de Chalon-sur-Saône, avec les armes de France à l'extérieur, qui ont été restaurées il y a peu de temps, et les armes de Givry à l'intérieur. Donc, et bien d'autres encore, c'est l'époque de la fontaine aux dauphins. La Halle Ronde, c'est le 19e siècle. Il ne faut pas confondre les époques. Mais en tout cas, cette ville de Givry, c'est l'époque où on refait les rues. On refait, on va même au-delà du pavage, puisqu'on rectifie les rues. Donc, c'est les signes que Givry connaît une puissance, alors qu'elle doit, d'une part, d'une manière privée, essentiellement à son vignoble, et d'autre part, d'une manière publique, à sa forêt. Parce que les bois de Givry sont, pour la communauté villageoise de Givry, une source de profit énorme. Donc, la vigne contribue en tout cas à cette richesse locale, et on voit bien que cette population viticole qui augmente au XVIIIe siècle est véritablement l'un des fondements de l'opulence locale. C'est d'ailleurs le même Courtépée qui, le premier, en 1776, va nous donner une classification des crus de Givry. Ça, c'est extraordinaire, parce que le voilà qui cite, je vous propose de vous y reporter si vous le souhaitez, dans l'édition du 18e et dans les éditions qui ont suivi, qui cite les climats fins, essentiellement en vin rouge. Il y a deux climats qui sont concernés en vin blanc. Mais bon, le Givry s'est déjà spécialisé à ce moment-là. Ce n'est pas le cas de tous les vignobles, d'ailleurs, parce que si je prends un exemple comme celui de Montagny-les-Buxy, qui est aujourd'hui exclusivement consacré à la culture du chardonnay, du vin blanc, ce n'était pas le cas au XVIIIe. Bon, il y a eu un retournement. Givry, la spécialisation autour du pinot noir, elle est actée depuis le Moyen-Âge. Il n'y a pas eu de retournement de situation. Eh bien, Courtépée va déjà cité. Donc on a identifié les meilleurs crus. On sait déjà qu'on peut les vendre différemment et plus cher. Donc on voit bien que la politique de spécialisation, de professionnalisation de la vigne s'est opérée à Givry à cette époque-là. En tout cas, Courtépée, dans son passage, et ses notes sur son passage, nous en donne un exemple flagrant. Le 19e advient. Je vais passer évidemment un peu plus de temps sur le 19e et le 20e siècle parce qu'ils nous conduisent à l'époque contemporaine. Je dirais évidemment un mot de la situation du vignoble de nos jours. Cette terre de Givry, elle est marquée par une indépendance de tout point de vue, jusqu'à la grande chute de l'invasion phylloxérique. Elle est marquée par une indépendance, d'abord parce que, comme je vous le disais, elle s'est spécialisée. Nous avons la chance de posséder à l'échelle nationale une grande enquête sur la situation du vignoble au XIXe siècle, notamment sous le Premier Empire, où l'on apprend à Givry que 350 hectares sont plantés en vigne, c'est plus qu'aujourd'hui, et qu'ils ne sont plantés pratiquement qu'avec des cépages nobles. Le gamay est résiduel, le pinot et le chardonnay règnent en maître sur cette terre. Et ça, c'est en 1809, au moment où Napoléon demande cette enquête. Le 19e siècle, pour le vignoble givrotin, c'est un siècle capital. Parce que c'est le moment où se constituent, à Givry comme dans l'ensemble de la côte chalonnaise, les sociétés de secours mutuels. J'en dis un mot parce qu'elles ont véritablement révolutionné l'histoire et l'apparence du vignoble. On a du mal à s'imaginer aujourd'hui un système où il n'y aurait aucune assurance en cas de maladie, de mort pour la famille du vigneron. Et pourtant, ce fut le cas pendant des siècles et des siècles. On a eu des essais assez précoces de constitution de sociétés mutuelles. On a un exemple notamment sur le secteur de Touche, donc commune actuelle de Mercuré. C'était pas la paroisse de Mercuré à l'époque, mais paroisse de Mercuré et de Touche, fin XVIIe siècle, où une confrérie se crée, alors avec évidemment un fondement religieux, mais qui rend également des services en cas de maladie du vigneron ou de mort du vigneron pour aider la famille qui reste désemparée et qui doit néanmoins assurer la culture de la vigne au moins jusqu'à la prochaine vendange. Ça, c'est une expérience très, très isolée dans le temps. Parce que la plupart des sociétés de secours mutuels, elles sont nées au XIXe siècle, dans les années 1830 et 1840. C'est le cas à Givry, pour le bourg de Givry, mais également pour les hameaux de Poncé et les hameaux de Russie. Givry, c'est une situation un peu compliquée, parce que tous ces hameaux ont été réunis sous une même commune au moment de la Révolution française, mais ils appartenaient à des paroisses différentes, qui appartenaient elles-mêmes à une communauté. Ce qui explique encore, d'ailleurs, parfois quelques rivalités latentes entre le bourg et ses hameaux encore de nos jours. On a perpétué une relative indépendance. En tout cas, elle se manifeste au moment de la constitution des sociétés de secours mutuels qui vont se développer pour les vignerons au moins sur trois parties de la commune. Quels sont leurs rôles? Elles assurent une entraide, j'allais dire, amicale. Qu'un vigneron soit malade, il s'agit d'aller le veiller. C'est une obligation. Ou qu'il vienne à décéder, il faut aller à ses obsèques. Et si vous n'y allez pas, sans excuse, c'est l'amende qui vient vous rappeler à votre devoir. Donc c'est une contrainte assez forte. Mais ce qui est plus intéressant encore, évidemment pour les vignerons qui y adhèrent, c'est qu'on va s'organiser pour faire ce qu'on appelle des corvées et tenir la vigne pendant l'absence du vigneron. Et ça, c'est quelque chose qui révolutionne complètement les rapports au sein du vignoble. C'est l'arrivée de la solidarité dans la profession viticole. Et ça va être une des professions, ce ne sera pas la seule qui sera concernée d'ailleurs, mais qui sera en pointe dans ce sujet-là et qui va voir se développer très rapidement ces mécanismes de solidarité qui durent encore d'ailleurs jusqu'à nos jours, puisque les sociétés de secours mutuels sont toujours vivantes. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on y est attaché et on va le voir demain, même ce soir d'ailleurs, mais surtout demain, puisque c'est jour de polée de la côte chalonnaise à Chalon-sur-Saône. On verra défiler toutes les sociétés de secours mutuels de la côte chalonnaise jusqu'à cette année à Saint-Pierre, puisque ça ne sera pas à Saint-Vincent, mais avec la dégustation du vin nouveau sur la place de l'Hôtel de Ville demain soir, 3 vers 5, 5h30, 6h. Et donc, ces sociétés aujourd'hui qui conservent un apparat, j'allais dire folklorique, au bon sens du terme, elles ont surtout cette vertu de continuer à donner un coup de main au vigneron qui est empêché, pour raison de maladie notamment, hein, ou qu'un accident en particulier survienne sur la vigne. Donc, c'est une preuve de la volonté des vignerons d'assurer par eux-mêmes une contrepartie au statut du vigneronnage qui les rend très dépendants de leurs propriétaires, parce que la plupart ne sont pas propriétaires de leur vigne à ce moment-là, ils sont véritablement vignerons, mais pas propriétaires, et d'essayer, par ce biais-là en tout cas, d'échapper à une partie de la tutelle. Il faut bien voir que les vignerons de la côte chalonnaise et de Givry au XIXe siècle sont des vignerons très politisés qui font peur aux autorités. On l'a vu notamment en 1834, lorsque les républicains de la région se sont dressés contre lui, et de la France d'ailleurs tout entière, se sont dressés contre Louis-Philippe lorsque celui-ci voulait porter atteinte à une loi de liberté associative. Et les vignerons ont été en pointe de ce combat, notamment à Givry, où on a eu un début d'émeute, on a failli, ça a avorté, se porter en masse sur Chalon-sur-Saône pour s'emparer des établissements, en tout cas des sièges, du pouvoir local. Donc le vignoble est un monde à l'indépendance d'esprit qui pose de vrais soucis au XIXe siècle, de vrais soucis aux autorités qui sont celles, en l'occurrence, en 1834 de la monarchie de Juillet, et qui resteront celles ensuite de pouvoir fort comme celui du Second Empire. Donc cette indépendance d'esprit, elle se manifeste par la constitution de sociétés de secours mutuel, là encore pour échapper à l'emprise des événements extérieurs, et elle se manifeste dans un comportement politique largement rebelle. Il n'en reste pas moins qu'indépendamment de ces aspects politiques qui sont constitutifs de l'histoire du vignoble à cette époque-là, il s'agit de bien considérer que d'un point de vue culturel, le vignoble de Givry continue de croître au XIXe siècle, sous un facteur d'ailleurs qui est assez commun à l'ensemble des vignes de France. Le vignoble français augmente en superficie tout au long du XIXe. Ça tient à plusieurs raisons. D'abord, la consommation du vin se généralise. Et notamment par l'augmentation naturelle de la population française et aussi par l'exode rural. On a de grands centres de consommation dans les villes et ça ne fera que croître. Alors, pour ces centres de consommation-là, qui est une consommation populaire, ça n'est pas les vins fins, évidemment, qu'on cultive en priorité. Et donc, on va voir à Givry la vigne petit à petit envahir la plaine et s'étendre très largement. C'est une période, là aussi, comme à la fin du XVIIIe siècle, d'opulence pour le vignoble givrotin. C'est l'époque où l'on construit la halle au grain, la halle ronde de Givry, que vous connaissez sans doute, bâtiment remarquable, les années 1829-1830. C'est sans doute l'âge d'or du vignoble givrotin, la construction de la halle au vin en 1859. La halle au vin, c'est la poste de Givry, derrière le monument aux morts, pour vous la situer aujourd'hui. Et voilà, c'est vraiment cette époque de surexpansion du vignoble, expansion foncière, expansion capitalistique, là aussi, qui véritablement fait exploser ce vignoble, alors pas toujours en qualité, soyons clairs, mais en tout cas en quantité et en surface. Et puis, la crise survient. Et cette crise, elle prend la forme d'un petit puceron qui s'appelle le phylloxéra, qui a fait son apparition en France en 1863, à Pujaux, dans le Gard, venant d'ailleurs d'Amérique, puisqu'on avait importé des plants américains pour faire des essais, parce que c'est un, le 19e est un grand siècle d'essais scientifiques, et on a amené avec ces plants le puceron, auquel les vignes américaines résistaient, mais que les vignes françaises ont été incapables de contrecarrer. Le phylloxéra, c'est un puceron qui a une phase terrestre et une phase aérienne, et dans sa phase aérienne, c'est pas très grave, indirectement, mais dans sa phase terrestre, il s'agrège sur les racines, les radicelles de la vigne, et les attaque, les mord, et contrairement aux vignes américaines, les vignes françaises, elles, ne cicatrisent pas. Donc elles n'ont pas ce pouvoir de faire un petit bouchon liégeux comme c'est le cas avec, sur les vignes américaines, et elles vont infailliblement mourir. La première tâche phylloxérique, Elle apparaît en Saône-et-Loire, à Moncey, dans le Tournugeois, enfin c'est le canton de Saône-et-Loire exactement, en 1875. Et les choses vont aller très très vite en juin 1875. Puisque 2 ans plus tard, on repère le phylloxéra à Vert, à Tournu, à Royer, à Brancion, à Osnay, à Nanton, à Cultis-sur-Murnan, et puis bientôt dans le reste du canton de Saône-et-Loire-le-Grand, dans le canton de Tournu, dans le canton de Lugny, dans le canton de la Chapelle de Guinchay, dans le canton de Saint-Jean-Goul-National, et évidemment, très rapidement, dans les années 1879-80, le phylloxéra arrive à son tour dans la côte chalonnaise. Et ça va être une hécatombe sans nom, puisque en 15 ans, le vignoble sera complètement détruit. La chance du vignoble chalonnais, c'est d'avoir été touché plus tardivement que d'autres. Parce qu'on s'est trouvé pendant des années, complètement désemparé vis-à-vis de cette maladie. On a tout essayé, tout et son contraire, sans y parvenir. Des traitements les plus anecdotiques aux traitements les plus coûteux, notamment par injection de produits chimiques avec ce qu'on appelle des pales injecteurs que vous voyez parfois encore sur des brocantes, des énormes seringues où l'on injectait un produit qui était censé, dans sa phase terrestre, détruire le phylloxéra. Là, on a vu une méthode efficace, c'était l'inondation des vignes. Évidemment, c'est sur des terrains plats. La côte chalonnaise, ça pose un vrai problème. Donc, la seule méthode efficace, ça a été la reconstitution du vignoble avec des plants américains qui, eux, résistaient, après avoir apporté la maladie sur le territoire national, qui, eux, résistaient. Avec d'énormes réticences des vignerons. Parce que vous vous rendez bien compte, et d'ailleurs, aujourd'hui, pouvons-nous vraiment avoir la certitude, qu'il y avait un risque. Et les vignerons le sentaient comme tel, qu'en plantant des pieds américains, on allait changer le goût du vin. D'ailleurs, on avait trouvé un slogan à l'époque pour essayer de réconcilier tout ça, pour essayer d'inciter les vignerons à se lancer dans cette affaire, en disant « le pied est américain, mais la tête est française ». Oui, parce qu'évidemment, on bouturait des cépages français sur des pieds américains. En tout cas, ça a été long, mais c'est la méthode la seule véritablement efficace et durable que l'on a trouvée pour reconstituer ce vignoble. Mais ça veut dire que pendant 10 ans, 15 ans parfois, les vignerons ont été obligés de tenir. Et bien peu l'ont pu, parce que financièrement, ils n'avaient pas les reins assez solides pour pouvoir résister à une crise comme celle-ci. Donc, on a replanté de la vigne, non plus autant qu'il y en avait avant, mais bien sur les climats, les terroirs où elle était la plus propice. Et donc cette rétractation du vignoble, finalement, a ramené le vignoble de Givry, et j'allais dire le vignoble de la côte chalonnaise, dans des proportions bien moindres de celles où le phylloxéra l'avait trouvé au moment où il a commencé ses ravages. Et ça a posé un énorme problème, parce que la réputation du Givry s'est trouvée comme éclipsée. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que Givry, évidemment, n'a pas produit autant qu'avant, c'est une évidence, je vous ai dit pourquoi, mais aussi et surtout parce que c'est à ce moment-là, au début du XXe siècle, qu'un vignoble voisin va assurer à Givry une concurrence redoutable. Et ce vignoble, c'est le vignoble de Mercuré. Le vignoble de Mercuré qui, contrairement au vignoble de Givry, était non pas entièrement assis sur la petite propriété, mais s'appuyait également sur le négoce, et notamment sur de grandes maisons de négoce qui avaient la possibilité d'écouler la production de Mercuré et de Bourgneuf bien au-delà des frontières régionales et bien au-delà des frontières nationales. Et pendant 20 ans, après avoir connu une gloire sans nom jusque dans les années 1870, le vignoble de Givry, en tout cas sur toute la première moitié, la petite première moitié du XXe siècle, le vignoble de Givry est comme mis entre parenthèses. Les prix chutent, et singulièrement par rapport aux vins de Mercuré, qui eux, effectivement, ont une cote sans cesse grandissante. Et alors, on va essayer de sortir de ces difficultés de plusieurs manières. On va retrouver à Givry, vous serez peut-être surpris de l'apprendre, une solution de cave coopérative. Aujourd'hui, ça nous paraît assez extraordinaire. On a un certain nombre de caves coopératives en Bourgogne. On en a essentiellement dans le sud de la Bourgogne. On fêtera demain les 80 ans de la cave coopérative de Bissé-sous-Cruchot dans le canton de Buxy. On a évidemment celle de Buxy, puis celle de Saint-Jean-Augustin, celle de Genouilly. Mais Givry a tenté de créer sa cave coopérative en 1906 sur le modèle d'une cave coopérative de l'Hérault, de Maressan, qui a essayé d'être à la fois coopérative de vinification et de vente, hein, les deux aspects. Bon, ça ne tiendra pas essentiellement, et ça a périclité en tout cas avec la Première Guerre mondiale. L'autre solution de Guerlas, si je puis dire, c'est que les vignerons de Givry vont tenter, retournement complet de l'histoire, dans les années 20, de découler leur vin sous l'étiquette de Mercuré. Ça non plus, ils n'aiment pas trop que je le rappelle. Mais bon. Mais ça plaît beaucoup plus à Mercuré quand on le dit. Mais ça s'explique logiquement parce que la faveur commerciale était portée sur le Mercuré. On connaissait le Mercuré mondialement. Et d'ailleurs, c'est toujours vrai. Hein. Aujourd'hui, la réputation mondiale du Mercuré dépasse de loin celle du Givry. Pas du tout un jugement de valeur sur les deux vins, qui sont complètement différents et qui, à mon sens, sont très complémentaires dans leurs différences. Mais les vignerons de Mercuré vont essayer, et c'est là où on voit tout le cheminement de cette notion d'appellation d'origine. La loi qui le porte, la première loi qui le porte vraiment, c'est la loi de 1919. Mais qui donnait aux tribunaux le rôle de juger de la délimitation. Alors, en 1922, les vignerons de Mercuré et du Bourgneuf, associés, vont faire un procès aux vignerons de Givry, ainsi qu'à ceux de Ruilly, qui avaient le même procédé, qui écoulaient également une partie de leur production sous l'étiquette de Mercuré. Et vont faire un procès qu'ils vont gagner en 1923, en mai 1923 exactement. Et c'est ainsi que le vignoble de Mercuré est devenu le premier vignoble de Saône-et-Loire à voir par voie judiciaire son appellation communale validée et officialisée. Le reste des appellations, il faudra attendre pour la plupart la création de l'Institut national, d'abord le comité, aujourd'hui c'est l'Institut, le comité national des appellations d'origine, et puis ensuite donc l'Institut national des appellations d'origine, qui va à partir des années 30, de la deuxième moitié des années 30, reconnaître des délimitations qui seront validées par décret. Mais c'est bien cette affaire, cette concurrence des deux vignobles, même des trois vignobles, Mercuré d'un côté et Givry et Ruilly de l'autre, qui va donner naissance à la première zone officiellement reconnue d'appellation communale de Saône-et-Loire, au profit donc de Mercuré, et puis donc Mercuré et Bourgneuf, évidemment, les deux communes qui ne sont pas encore fusionnées, puisqu'il faudra attendre 1971 pour ça, et une petite partie du territoire adjacent de Saint-Martin-sous-Montaigu, hein, qui est toujours inclus évidemment dans l'aire d'appellation du Mercuré aujourd'hui. Alors, Givry, ayant manqué son essai de cave coopérative, en tout cas n'en ayant pas tiré tous les profits attendus, ayant perdu son procès contre Mercuré, va, à partir des années 30, se tourner vers une solution plus officielle. Et cette solution, ça va être la volonté d'obtenir à son tour un texte qui consacrera une ère d'appellation reconnue. Le dossier est lancé à la fin des années 30. Manque de chance, la guerre survient. On relance le dossier de l'appellation Givry en 1942. J'ai retrouvé les archives aux archives départementales. Mais l'affaire traîne. Bon, évidemment, Givry, ce qui ne facilite pas les choses, est en territoire occupé, tandis que l'administration qui gère cette affaire est en zone non occupée. Donc vous comprenez bien, et bon, même après la suppression de la ligne en fin 1942, début 1943, le dossier traîne en longueur. Il sera repris à la Libération, d'ailleurs bien mal étraîné par un orage de grêle redoutable qui a détruit le vignoble chalonnais le 21 juin 1945. Les vignerons anciens se rappellent encore de ces images des vignes du chalonnais qui avaient l'allure d'un mois de janvier. J'ai vu quelques photographies, donc ça a été une année calamiteuse. Mais il n'en reste pas moins qu'on continue la politique et que le décret tombe le 8 février 1946, qui reconnaît l'appellation communale d'origine contrôlée, Givry, essentiellement pour les vins rouges, et accessoirement, mais ça fait quand même de bonnes choses, pour les vins blancs. Donc c'est l'aboutissement de pratiquement 50 années de recherche. 50 années pendant lesquelles Givry a été placé complètement au deuxième plan, ce qui n'était pas le cas du tout avant. Vous voyez comme quoi il n'y a pas de, en économie en tout cas, de position intenable, et que les crises rebattent les cartes. Bon, je ne fais pas d'extrapolation avec la situation actuelle, mais c'est bien ce qui va se passer de toute façon. Bon, la crise va rebattre les cartes comme toujours. Donc il est évident en tout cas qu'en matière viticole, ça a été très prégnant sur le cas de Givry. Alors, à partir de 1946, alors qu'on a une consécration légale, si je puis dire, il va s'agir pour les vignerons d'assurer un renouveau de cette appellation qu'ils ont donc obtenue par voie officielle. Et cela va passer par une politique qui était déjà expérimentée d'ailleurs en Côte d'Or dans les années 20. C'est une politique d'enracinement, d'attachement au terroir, de renouveau folklorique. C'est, par exemple, en 1953, la création de la fête de la vigne, que vous avez peut-être connue, d'ailleurs, pour certains, parce que, bon, aujourd'hui, elle s'est complètement transformée, mais c'est très récent, en réalité. Et on va nommer, alors évidemment, là, on va jouer à fond sur le mythe du vin préféré du roi Henri IV, hein, puisque Henri IV conduit le cortège sur son cheval blanc. On va, à l'instar de ce qui se passe à Chalon-sur-Saône depuis le début du XXe siècle, nommer des reines de Givry. Et donc on va créer une animation populaire et folkloriste avec des chars, c'est très très proche à la fois de l'inspiration folkloriste des années 30 qui avait prévalu en Côte d'Or et du carnaval chalonnais. Hein, c'est le petit carnaval givrotin, mais centré, consacré à la promotion de ce vignoble qui entame une renaissance dans les années 1950. Dans la même veine, c'est la création de la Société des vignerons de la Saint-Vincent de Givry en 1964, secondé 2 ans plus tard par la confrérie des chevaliers du cep Henri IV, qui existe toujours, sur le modèle des chevaliers du tas de vin du Clos Vougeot, évidemment, qui s'était créé dans les années 30. Donc on a très nettement une inspiration qui copie largement, en l'adaptant évidemment à ce qui s'est passé sur la partie nord de cette grande côte viticole qui court de Côte d'Or au Mâconnais, finalement. Et donc, on a un renouveau de ces manifestations et qui durent encore avec intronisation, évidemment, d'ambassadeurs extérieurs à la commune qui vont pouvoir, à leur tour, faire la promotion du vin de Givry partout où ils iront. C'est vraiment des personnalités. La politique, d'ailleurs, s'en continue jusqu'à nos jours. Un des derniers intronisés, ça a été professeur Yves Coppens, par exemple. Je crois que c'était en 2007. Et avec l'idée qu'on assure la promotion par une reconnaissance officielle et l'intronisation en tout cas de personnalités qui vont porter cette image. Et puis ça va durer finalement 30 ans. Et on a une petite révolution, mais qui n'est pas moindre, à la fin des années 1990, dans la communication œnologique, où l'on voit se développer, et c'est sans doute une des premières appellations qui l'a fait en Saône-et-Loire, où l'on voit se développer donc de nouveaux outils de communication autour du vin de Givry, c'est le Festival des Musicaves, que vous connaissez, qui est appuyé sur la vigne. Donc vous voyez, j'en arrive à des aspects très contemporains de la question, mais c'est pour bien vous montrer qu'on est encore dans un processus, de renouveau de la commercialisation de Givry. Donc l'histoire, elle continue sans cesse. La création des Musicaves en 1997 participe incontestablement de cette volonté de relooker l'appellation Givry, et elle s'accompagne à partir de 2003 de l'édition de documents promotionnels qui là sont complètement hors contexte folklorique ou autre, qui sont complètement neufs, qui se détachent de l'image traditionnelle du vin qu'on a habituellement pour aller vraiment sur une modernité. Alors c'est un pari, parce qu'évidemment il faut oser, hein, c'est casser l'image traditionnelle pour refaire un produit à partir d'une nouvelle image. En tout cas, les vignerons de Givry décident de le faire à partir de 2003, et avant création d'un site internet, bon ça j'allais dire c'est plus courant aujourd'hui, mais en tout cas c'est cette volonté qui s'est manifestée. Alors si j'en arrive à ma conclusion, puisque l'heure sera bientôt écoulée, je donnerai un bref aperçu du vignoble givrotin aujourd'hui. C'est 260 hectares aujourd'hui, donc vous voyez que par rapport aux 350 du Premier Empire et aux 500 pratiquement du Second Empire, on est revenu sur une ère où seuls les terrains les plus appréciables, en tout cas les mieux destinés par leur nature géologique à la culture de la vigne, sont exploités. Une appellation qui s'étend, alors certes sur Givry, mais également sur Dracilfort et sur Jambles, qui réfléchit aujourd'hui encore à une extension, ne serait-ce déjà parce qu'elle continue de souffrir de la concurrence du Mercuré, qui lui a une assise territoriale beaucoup plus large. Ça lui est d'ailleurs parfois reproché. Cette politique d'expansion territoriale de l'appellation Mercuré a amené certains à dire qu'on avait peut-être été un peu trop généreux dans les classements de terrain. En tout cas, Givry, plus raisonnablement, me semble-t-il, essaie aujourd'hui d'étendre un tout petit peu ces terrains. On a des demandes des communes alentours qui sont dans la continuité géologique des coteaux givrotins et essaye donc d'assurer une nouvelle promotion. Je dirais aujourd'hui que finalement, ce qui a été un handicap pour l'appellation Givry, c'est-à-dire le fait qu'elle n'ait pas possédé de négoce, cette appellation, contrairement à celle de Mercuré, mais qu'elle se soit appuyée sur les petits propriétaires privés, est peut-être une chance. Parce que ce sont les privés qui ont les premiers développé une politique qu'on appelle une politique d'embouteillage. On ne parle pas de trafic routier, mais évidemment, la mise en bouteille, la commercialisation du vin par la bouteille. Et c'est aujourd'hui, on le sait bien, d'abord, l'élément le plus rémunérateur pour valoriser la production, et c'est aussi un des meilleurs moyens pour répandre la renommée d'un vin que de commercialiser en bouteille. Et on a un taux d'embouteillage très très fort à Givry, qui est de l'ordre de 75%, c'est un des plus forts de Bourgogne, donc il n'y a que 25% de la population de Givry, de la production pardon, de Givry qui soit vendue en vrac ou au négoce, et c'est sans doute sur cet aspect-là des choses que Givry, qui a encore malgré tout du travail à faire pour assurer sa promotion bien au-delà de ses frontières, pourra s'appuyer demain pour continuer finalement, et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer en vous retraçant pratiquement ces 20 siècles de viticulture en une heure, pour continuer cette politique de valorisation de son territoire et finalement cette conquête des marchés qu'elle, dans son histoire, elle n'a fait sans cesse que conquérir, reperdre et reconquérir. Donc on est toujours sur cette même démarche de commercialisation avec des outils nouveaux et dans un contexte nouveau. En tout cas, me semble-t-il, pour les bien connaître, c'est la volonté de l'ensemble des viticulteurs de Givry. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.
Bon, comme d'habitude, c'est magistral et brillant. Donc, c'est à vous de poser des questions. J'avais pas prévu la dégustation, donc je m'en excuse très platement, mais on va essayer d'arranger ça une fois suivante. Hein. Voilà. Alors, allons-y. Oui.
Non. Je réfléchis en dodinant de la tête, mais non, on ne peut pas faire de rapport, parce que l'histoire de la réforme à Chalon-sur-Saône, la question c'est, voilà, parce que peut-être tout le monde ne l'a pas entendu, s'il y a-t-il une relation entre la notion de vin préféré du Henri IV et l'histoire de la réforme à Chalon. Je sais que vous y êtes très sensible, notamment du côté de Châtenois, avec la chapelle de Cruzy, mais je sais bien d'où vient la question. Mais en l'occurrence, non. Même si Henri IV et ses armées ont nécessairement eu à intervenir sur le territoire, il n'y a aucune relation directe de l'une à l'autre. Mais je me permets d'insister de nouveau sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est bien de prendre en considération que la notion même n'apparaît jamais dans la littérature, dans les sources, avant les années 1770, et qu'elle apparaît précisément dans un contexte où Henri IV est partout. Quelques décennies auparavant, ce fut la Henriade de Voltaire, c'est un peu plus précoce, mais c'est surtout un contexte où on dit qu'Henri IV a fait alors ses courtes épées, là aussi, ses armes à René-le-Duc, alors que ce n'est pas vrai non plus. Enfin, on le voit partout, en Bourgogne, mais ailleurs aussi. Donc, on a véritablement un renouveau de l'image de ce roi dans les années 1770, et comme par hasard, je relis les deux événements en tout cas, il apparaît comme celui de Givry. On disait en réalité, l'expression exacte n'était pas celle-ci, on l'a dit plus tard au XXe siècle, le vin préféré, Courte Épée dit exactement que la tradition prétend qu'Henri IV en avait fait son ordinaire. Voilà, c'est ça. Je pense que finalement, cette grande affaire du vin préféré, c'est un ancien maire de Givry qui l'avait parfaitement résumé dans un bulletin municipal des années 1980 en parlant de légende véridique. Alors je trouve que c'est fabuleux. Eh bien, c'est une légende véridique. Voilà.
D'autres questions? Je regrette vraiment de ne pas avoir prévu de dégustation.
Oui, ça va vraiment nous manquer. Bah écoutez, c'est quand même assez simple, soyons clairs. Pour prolonger ce soir, non mais en plus on peut le faire très amicalement, à partir de 17h, rue aux Fèvres, les vignerons de la côte chalonnaise sont là, tous ne sont pas de Givry, mais ça vous permettra de prolonger un peu en dégustant. Ça, ce n'est pas les vins nouveaux, hein, c'est les vins faits en plein cœur de Chalon. Donc ça, ouais, il y a quand même un rapport. Bon, on ne va pas dire qu'on l'avait fait exprès, Président, hein, c'est un peu fortuit, mais enfin bon, ça tombe bien, quoi, voilà.
J'ai une question. Vous avez évoqué l'embouteillage,
oui,
qui est un phénomène relativement récent. À partir de quand, d'une façon générale, pas spécifiquement pour le Givry, cette tendance à commercialiser en bouteille est apparue?
Alors, on a de la commercialisation en bouteille. Alors, si je parle de l'ensemble de la Bourgogne, hein, et des climats fins, notamment plus au nord que le nôtre, un début, on a déjà de l'embouteillage au XVIIe. On voit apparaître des commandes de bouteilles dans les comptes de grandes propriétés viticoles à partir de la fin du XVIIe siècle. Ça se poursuit évidemment au XVIIIe. Au XIXe aussi, on a sans doute, je dis bien sans doute, sans certitude absolue, je préfère le dire tout de suite, quelques domaines de Givry qui commencent les premiers essais d'embouteillage au XIXe siècle. Qui vont se développer dans l'entre-deux-guerres, mais vraiment l'époque où les choses vont décoller, ce sont les années 50 puis 60. C'est 60 véritablement pour l'ensemble de la côte chalonnaise où, ça y est, la bouteille commence à se commercialiser davantage et ça ne fera que s'accroître dans les décennies qui vont suivre. Mais parfois, ça sera assez long, hein. On commence évidemment par les vins les plus fins et les plus réputés, et puis on descend dans des appellations régionales. Aujourd'hui, bon, une appellation comme l'appellation Bourgogne-Côte-Chalonnaise qui a été créée en 82, sauf erreur de ma part, est largement commercialisée là aussi en bouteille. Donc bon, il faut attendre pour vraiment qu'il y ait un démarrage assez fort les années 60.
Il faut dire qu'il y a aussi une raison technique, c'est la capacité de fabriquer d'abord la menthe de la consigne, et de fabriquer des bouteilles dans des quantités industrielles.
Alors,
absolument,
on n'a pas ce problème ici. On n'a pas ce problème à Chalon-sur-Saône parce qu'on a, depuis le début du XXe siècle, des verreries importantes à Chalon-sur-Saône. L'une des plus fameuses, d'ailleurs, sera la verrerie Opècle, hein, qui était restée très, très célèbre. Alors, verrerie qui fonctionne pour la production de bouteilles bourguignonnes, mais au-delà aussi, parce que c'est à Chalon-sur-Saône, c'est un centre de bouteilles, de production de bouteilles de champagne, par exemple, depuis le début du XXe siècle. Parce que là, évidemment, il n'y a pas de commercialisation de champagne en dehors de la bouteille. C'est une évidence absolue. Donc, ça a apporté cette production de vin mousseux, et en Bourgogne, à partir des années 1820-1830, et c'est né ici, à Chalon-sur-Saône, hein, rue d'Autun, exactement. La production de bouteilles a notamment été portée par le développement, la production et de l'exportation des années 1830 des vins mousseux bourguignons. Voilà. Mais bon, encore une fois, grand décollement, c'est les années 60. Okay.
Bon, je fais une incidente. Il y a d'autres questions?
Je voulais savoir par rapport au Saint-Jean, qui a eu son heure de gloire.
Oui.
Oui.
Oui, oui, bien sûr, bien avant.
Quelle
oui.
était la place de Saint-Jean-Vous par rapport, par exemple, au vin de Givry?
Alors, il m'est difficile de répondre. Je préfère vous le dire plutôt que de vous raconter des bêtises, mais il m'est difficile de répondre. Effectivement, dans les textes du Moyen-Âge, on sait qu'on avait une exportation de vin de Saint-Jean-Vous et de Tournu également, jusqu'à Paris. Hein, on a des traces. Aujourd'hui, vous dire la proportion par rapport au vin de Givry, ça m'est quand même assez difficile. Je le dis honnêtement, parce que les traces que l'on a sont des traces littéraires ou par chance parfois des contes, soit des contes de princes qui font entrer dans leur cellier du vin et dont on connaît l'origine, ce n'est pas toujours le cas, soit des contes douaniers aux octrois des différentes villes. D'ailleurs, Paris servant souvent de point de passage pour une commercialisation également plus vers l'ouest encore du territoire français, y compris pour Nouveau-Bourguignon. Voilà, c'est les seuls éléments, mais ce n'est pas des éléments quantitatifs. Là, pour, je ne peux pas aller au-delà de ça parce que mathématiquement, à mon sens, on ne peut pas aller au-delà de ces remarques-là.
J'avais lu qu'il en avait été offert au pape, mais je me souviens.
Du vin de Saint-Jean-Goux ?
Voilà, je ne me souviens plus.
Je n'ai pas trouvé de mention de ça. Alors ça peut être aussi les ducs de Bourgogne, pas forcément un roi, puisque la politique des ducs de Bourgogne était véritablement d'offrir des cadeaux vineux aux grands, et notamment, mais alors j'ai pas trouvé de mention de don de vin de Saint-Jean-Goux, mais jusqu'à preuve du contraire, là encore, parce que s'il y a une mention au contraire, elle m'intéresse. En tout cas, le vin de Givry, ça c'est incontestable, il y a eu une politique qui a d'ailleurs lancé la commercialisation, parce que les papes d'Avignon l'ont trouvé à leur goût, ils sont revenus, enfin, renvoyé des courtiers. En acheter jusque chez nous.
Moi j'avais une question par rapport aux panneaux qu'on voit partout fleurir dans la campagne de Dieu, par rapport à Praxival.
Oui.
Est-ce que les vignerons, ils peuvent se sentir concernés, ils doivent, moi je demande juste un sentiment.
Bien sûr.
Mais est-ce que c'est plus politique ou vraiment ça va avoir des conséquences sur le...
Alors, oui, alors ça c'est une bonne question. Moi je crois qu'aujourd'hui, il faut analyser l'aspect technique et l'aspect politique au sens large du terme. Je ne parle pas de politique politicienne, mais je dirais la réaction de la communauté par rapport à cette installation. Bon. Aujourd'hui, moi, techniquement, je ne suis pas en mesure de vous dire si c'est dangereux ou pas. Ce qu'on peut dire de manière à peu près sûre, c'est que l'usine qui existait auparavant n'était pas non plus non pas loin complètement, une usine de peinture, mais que techniquement, même si les techniciens nous disent donc que tout sera contrôlé dans le cadre de cette nouvelle usine, il y a des produits nécessairement dangereux qui vont y transiter. Je ne vais pas au-delà parce que je n'ai pas le dossier technique. Par contre, ce qui moi me semble intéressant dans cette affaire, si on prend un peu de hauteur et on va au-delà, c'est qu'on a une réaction de la communauté qui s'appuie notamment sur le vignoble comme un argument aujourd'hui. Donc il y a un principe de protection de l'environnement, je dirais au sens large du terme, mais qui vient s'appuyer sur une démarche aussi de développement économique. Hein? Si Praxival... Que Praxival soit dangereux ou pas, j'allais dire, c'est le problème évidemment, mais ce n'est pas que le problème, ça porte quelque part atteinte à l'image du vignoble, puisque c'est un élément qui est complètement exogène au vignoble et qui vient s'implanter dans le vignoble. Donc moi ça m'intéresse, je dirais, entre guillemets, d'un point de vue plus sociologique que technique, parce que là encore je ne peux pas vous répondre. Moi j'ai entendu, j'ai lu évidemment les arguments des uns et des autres, chacun peut se faire une opinion sur la question, mais je trouve que la réaction globale, parce que c'est vraiment une réaction globale et massive de la communauté, est très intéressante par rapport, parce que l'argument de la vigne, et d'ailleurs le président des vignerons de Givry, qui est un ami en plus, est un peu un des fers de lance de cette contestation anti-praxivale, Éric Desvignes pour ne pas le citer, montre bien, témoigne bien qu'il y a toujours cette volonté de promotion économique et que donc l'image aujourd'hui que Givry veut complètement renouveler et qu'elle s'attache à renouveler depuis les années 2000, elle risque d'être entachée, en tout cas c'est l'idée des vignerons, par l'implantation de cette usine. Voilà, qu'elle soit dangereuse ou moins dangereuse. Voilà, c'est l'élément de réponse que en tout cas moi c'est l'analyse que je peux faire aujourd'hui en l'état du dossier et encore une fois sans rentrer dans les considérations techniques parce que là ce sont des données qui m'échappent largement. Mais c'est un débat très très intéressant. Très très intéressant.
D'autres questions ? Donc, je voulais simplement faire une petite incidente qui m'est venue à l'esprit pendant votre exposé. Nous allons avoir une conférence au mois de janvier sur Pasteur, qui a été intitulée « Un chimiste méconnu », puisque encore faut-il le rappeler une fois de plus que Pasteur n'avait rien à voir avec la médecine, c'était un chimiste. Et il y a des pans entiers de son œuvre qui sont totalement méconnus. Évidemment, on le connaît par ses œuvres sur la microbiologie ou sur la rage, et il n'est pas question de lui enlever ses titres de gloire, mais le continent oublié de Pasteur, il est au moins aussi grand, sinon plus grand, que cette chose-là. Et en particulier, il a travaillé sur les fermentations et sur le vin. Donc, je vous encourage, c'est monsieur Antos qui nous a fait la conférence l'année dernière sur les Ténards, enfin sur le château de la Ferté, qui nous a fait, je le rappelle, je fais de la pub aussi pour le TV, édité après un processus un peu curieux, qui nous a, auquel on a proposé d'éditer sa biographie du baron Ténard, et qui s'est, ma foi, fort bien vendu jusqu'à présent, puisque le premier tirage est épuisé, à notre grande surprise, mais une très bonne surprise. Hein. Donc on va refaire un deuxième tirage. D'ailleurs, si ça vous intéresse, alors je fais de la pub aussi, le prix de vente public est de 30 euros, et pour les gens du TV, c'est 27. Il n'y a pas beaucoup de gens du TV, mais on n'en a pas fait de publicité effrénée jusqu'à présent, comptez sur nous, on va s'en occuper maintenant. Je quitte Ténard, monsieur Antos, en fait, c'est un chimiste de formation qui a dérivé vers l'enseignement des sciences, l'enseignement des techniques. Et donc il est compétent dans tous ces domaines-là, et c'est moi un peu qui lui ai demandé Pasteur, puisque à titre très personnel, je considère que Pasteur est le plus grand scientifique français du 19e siècle, et c'est une opinion très personnelle, et qu'il n'est pas perçu comme tel, je pense, dans l'inconscient collectif. Donc je veux remettre un peu Pasteur sur son piédestal, et donc c'est M. Antos qui fera cette conférence, et donc ça a un lien, bien sûr, avec le vin, entre autres. Enfin, il n'a pas fait que ça.
Peut-être juste une précision, si vous le permettez, on parlait de livres. Alors, ce serait peu suspect de me faire de publicité parce qu'il est épuisé. Je vais simplement vous signaler l'existence donc, d'un livre que j'avais écrit en 2006. Donc, il est plus, vous ne le trouverez plus dans le commerce, hein, puisque bon, je referai peut-être un jour un tirage, mais ce n'est pas prévu dans l'immédiat. C'est La grande histoire des vins givrés de l'Antiquité à nos jours. Donc, c'est évidemment ce qui avait un peu motivé la proposition qui m'avait été faite de venir vous en parler. Il est dans un certain nombre de bibliothèques, donc si vous souhaitez, vous pourrez le consulter. Voilà, c'était un tirage sans doute un peu trop minime, et du coup, c'est parti très vite. Mais en tout cas, bon, voilà, vous pouvez prolonger la réflexion. J'ajouterai que, et je finirai par là, l'étude des vins de Bourgogne se développe sur l'histoire des vins de Bourgogne. Nous avons quelques passionnés qui, il y a quelques années, ont créé un centre d'histoire de la vigne et du vin. Alors, français, spécialement bourguignon, puisqu'il est basé à Beaune, et qui travaille et qui organise régulièrement, en tout cas une fois par an, des colloques et qui publie des cahiers. Donc, si ces matières vous intéressent, il y a maintes et maintes sujets qui vous permettront de prolonger la réflexion autour encore, je le dis bien, d'un aspect crucial de l'histoire, de l'ensemble des données historiques de notre région et en particulier du Chalon. Voilà.
Merci. Je vais encore faire de la publicité, mais alors également c'est trop de l'eau, hein, et, excusez-moi. Donc lundi, je vous fais une conférence sur Thomas Edison. Donc si ça vous intéresse, vous êtes le bienvenu. Donc c'est dans le cadre du cycle sur les États-Unis.